Bonjour à toutes et à tous. L'histoire qui vient de nous être lue est une histoire bien particulière. Ce n'est pas tous les jours dans la Bible que Dieu parle à un roi de cette manière. Comme le texte le montre, le roi Salomon le dit lui-même dans sa réponse à Dieu. Salomon n'était qu'un jeune homme. On pense généralement qu'il avait peut-être 18, 20 ans, grand maximum. Il n'avait, d'après ses propres termes, pas d'expérience. Il faisait sans doute allusion à l'expérience d'un roi qui peut aller à la guerre. Ce sont les mots qu'il emploie exactement dans le texte d'origine. Ce qui est curieux dans cette histoire, c'est la façon dont Dieu vient se manifester, dont Dieu parle à ce roi. D'abord, Salomon n'était pas n'importe qui. Vous savez que nous avons tous une histoire. Nous avons tous eu une enfance, une jeunesse. Certains sont encore dans la jeunesse. D'autres sont arrivés un peu plus loin, comme moi, au-delà, bien au-delà de la jeunesse. Nous avons tous une histoire, et celle du roi Salomon, si on veut la résumer en quelques mots, est un peu particulière, parce que les parents de Salomon s'appelaient donc le roi David, son père, et sa mère s'appelait Bathsheba. Le nom de Bathsheba dans la Bible est un nom qui rappelle une aventure, que pourrions-nous dire, une aventure extra-conjugale que le roi David avait eue à un moment où il aurait dû se trouver à la tête de ses hommes en pleine guerre. Pour une raison que nous ignorons, ce jour-là, ou à cette époque-là, le roi David n'était pas parti à la tête de son armée. Comme d'habitude, il avait délégué son général en chef, un certain Abner, qui était le chef de son armée, et lui était resté chez lui, dans son palais. Et vous savez que, si vous avez lu un petit peu l'histoire biblique, que c'est à cette occasion que le roi David, qui visiblement s'ennuyait dans son palais pendant que son armée était à la guerre, avait donc eu cette relation extra-conjugale avec cette femme qui habitait dans son quartier. De cette union était né un enfant qui était mort en bas âge, comme le montre le texte biblique, et Salomon était le deuxième enfant de ce couple un peu particulier. Cependant, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de savoir, c'est de se rappeler que lorsque Salomon est né, donc de ce couple un peu particulier, lorsque Salomon est né, Dieu a eu un comportement très particulier. Il a dit à David et à Bathsheba, cet enfant, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je fais remarquer au passage que Dieu n'a pas dit cela de tous les enfants de rois lorsqu'ils sont nés. Dieu n'a dit cela apparemment d'aucun autre roi dans l'histoire biblique. Ce qui montrait de la part de Dieu un attachement particulier. Alors certains diront, mais comme c'est étrange que Dieu ait un regard aussi particulier, et je vais dire chaleureux, pour un enfant qui était né d'un couple qui à l'origine était un couple adultère. Je ne sais pas ce qu'on doit en tirer comme conclusion. Je porte cela simplement à notre attention pour nous montrer que Dieu est un Dieu qui a des pensées assez loin, assez différentes des nôtres. Dans un tel contexte, je crois que nous aurions dit de ce couple, il ne peut rien venir de bon. Je précise quand même, je rappelle quand même, que ce couple n'avait pas seulement commis l'adultère, qui est une chose relativement courante à l'époque comme aujourd'hui, mais le roi David s'était rendu coupable de meurtre sur la personne du mari de Bathsheba, ce qui était beaucoup plus grave encore. Alors lorsque donc Salomon est né, Dieu a dit cela, et le prophète Nathan, qui était comme un confident du roi David, a dit, nous n'allons pas l'appeler Salomon, mais nous allons l'appeler Jedidja. Alors Jedidja, c'est un mot hébreu qui veut dire aimé ou chéri de Dieu. Salomon a grandi, et puis un jour son père est mort à l'âge de 70 ans, après un long règne de 40 ans. Et lorsque nous lisons le texte qui vient d'être lu, nous découvrons Salomon qui est monté sur le trône depuis peu de temps. Deux chapitres auparavant, il nous est parlé de sa montée sur le trône dans des conditions à peu près normales. Et encore jeune homme, donc comme je disais tout à l'heure, 18-20 ans peut-être, Salomon est un petit peu emprunté. Il n'a pas d'expérience. Son père était monté sur le trône à l'âge de 30 ans, mais depuis le moment où Dieu l'avait appelé à devenir roi, il avait peut-être 15-16 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans, âge auquel il est monté sur le trône, David avait eu une grande expérience de la guerre. Il avait souvent même mené le peuple d'Israël, l'armée du peuple d'Israël, à la guerre pour le compte du roi Saül, son prédécesseur. Et puis David était devenu roi, et quand il est devenu roi, seulement deux des 12 tribus d'Israël ont accepté de le suivre. Pendant 7 ans, plus de 7 ans, il a dû braver l'impopularité dont il jouissait, ou plutôt le manque de popularité qu'il avait parmi les 10 autres tribus. Il n'a donc régné pendant 7 ans que sur une petite partie du peuple d'Israël. Et c'est seulement au bout de 7 ans qu'il a pu régner sur tout le monde et que tout le monde l'a reconnu pour roi. Donc David avait une grande expérience, ce qui n'était donc pas du tout le cas de Salomon. Alors, je dis cela pour bien situer le contexte de cette apparition de Dieu. Ce n'est pas souvent dans la Bible que nous voyons Dieu apparaître de cette manière à des hommes ou à des femmes, et encore moins à des rois. Dieu n'était jamais apparu de cette manière au roi Saül, le premier roi d'Israël. Dieu avait parlé souvent avec David, son père. Et puis là, nous voyons donc au début de son règne, Dieu s'approcher de celui qu'il a dit qu'il considérerait comme son fils et pour lequel il serait comme un père. Peut-être disait-il cela parce qu'il savait que Salomon, selon la règle, ne monterait sur le trône que lorsque son père serait mort. Toujours est-il que cette parole de Dieu à Salomon est assez impressionnante. Salomon monte donc dans un village qui se trouvait à une 20aine de kilomètres maximum de Jérusalem, le village de Gabaon, comme il est dit dans le texte. Et il nous est dit que Salomon a offert 1000 sacrifices, peut-être pas seulement lui-même, mais d'autres. Dans le deuxième livre des Chroniques, nous lisons qui fait le parallèle, qui est le récit parallèle de ce récit. Il est dit que tous les chefs d'Israël, ils étaient nombreux, tous les anciens du peuple sont venus avec lui à Gabaon pour offrir des sacrifices. Donc peut-être que les 1000 sacrifices représentent ceux offerts par tout un ensemble de chefs du peuple. Salomon monte donc sur cette montagne, et là il nous est dit qu'il a sacrifié sur les hauts lieux. Les hauts lieux, c'était simplement des lieux donc, qui étaient situés plus en hauteur, sur des collines, sur des montagnes. Les gens du pays estimaient souvent que plus on offrait un sacrifice sur une montagne, plus on était proche de Dieu. Bon, bien sûr, Dieu est encore beaucoup plus haut. Il est partout, d'ailleurs. Ce n'est pas une question de distance. Mais c'était dans la conception générale. Alors, on sacrifiait, même dans les peuples qui avaient peuplé Israël avant l'arrivée du peuple d'Israël, proprement dit, on pratiquait ce genre de sacrifice qu'on offrait à toutes sortes de divinités. Le lieu n'est peut-être pas forcément le plus approprié pour le Dieu d'Israël, tel que nous le découvrons dans la Bible. Mais cela nous montre aussi que Dieu ne tient pas compte de nos imperfections. Dieu veut se révéler. Dieu veut se manifester. Dieu n'aime pas seulement Salomon. Il aime tout le monde. C'est ce que nous dit la Bible. Il aime tous les rois, mais il aime aussi tous les simples sujets. Il aime les chefs d'État, mais il aime aussi tous les citoyens, quels qu'ils soient. Il n'aime pas mieux et il n'aime pas plus les gens qui ont une position élevée qu'il n'aime ceux qui sont beaucoup plus humbles, ou de conditions plus humbles. Dieu aime tout le monde. Jésus l'a montré dans l'Évangile. Il s'est approché, il a parlé avec les chefs du peuple, les chefs religieux, il a parlé avec les hommes riches, mais il a parlé aussi avec les gens les plus humbles, ceux qui vivaient dans la misère, ceux qui vivaient dans la difficulté, ceux qui n'avaient presque rien, ceux qui souffraient, ceux qui étaient malades, ceux qui étaient mourants. Jésus s'est occupé de chacun d'eux de la même manière, parce que Jésus, Dieu, aime tout le monde. Alors, que dit Dieu quand il s'approche de ce jeune homme qui vient de monter sur le trône, Dieu a une parole extraordinaire. Il dit à Salomon, je suppose que Salomon, après faire ses sacrifices, priait, et il dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » C'est une prière que moi j'aime beaucoup. Je trouve que Dieu est vraiment très bon. J'ai imaginé plus d'une fois, et je vous pose la question quand même au passage, ne me donnez pas la réponse, c'est entre Dieu et vous, comme c'est entre Dieu et moi. Mais vous imaginez un instant que Dieu, dans un moment où vous lisez sa parole, la Bible, où vous le priez, que vous entendiez la voix de Dieu vous dire « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Et bien sûr, sous-entendu, « Je te le donnerai. »« Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Alors, j'imagine que cela demande réflexion. À moins que vous ayez quelque chose à cœur qui représente la chose la plus extraordinaire ou la plus belle, celle qui vous fait le plus envie. Mais il y a beaucoup plus derrière cette question. Je me souviens un jour, je quittais une église comme celle-ci, et je venais de prêcher, je ne me souviens plus ce que j'avais prêché ce jour-là, ce n'est pas cela le plus important dans mon histoire, et alors que je repartais vers la bouche de métro la plus proche, un homme qui était là ce matin-là dans l'église, m'a demandé s'il pouvait aller avec moi jusqu'au métro. J'ai dit, pas de problème. En général, j'accepte d'être accompagné si on veut m'accompagner. Alors, nous avons commencé à parler, et puis cet homme m'a dit, « Voyez-vous, pasteur, je demande que deux choses à Dieu. » Vous allez voir, ce sont des éléments de réponse peut-être, mais je pense que chacun a les siens. Il m'a dit, « La première chose que je demande à Dieu, c'est qu'il me trouve une femme. » Bon, c'est une prière, ça. Pour les femmes, ce sera un homme, peut-être. Enfin, surtout, même, plutôt. Alors, donc, il me dit, je demande à Dieu qu'il me trouve une femme. Et la deuxième chose que je demande, c'est qu'il me libère de la cigarette. Et à peine avait-il fini de dire cela, qu'il a mis la main dans sa poche, et il en a ressorti, bien sûr, pas une femme, mais un paquet de cigarettes. Et il s'est mis à fumer devant moi. Alors, bon, moi ça ne me gênait pas, on était dehors en plus, c'était moins gênant. Je me suis dit ce moment-là, parce que je ne voulais pas être un petit peu dur, je me suis dit à ce moment-là, je ne sais pas si Dieu va lui trouver une femme. Mais il y a une chose qui va être sans doute plus dure à trouver, c'est la délivrance du tabac. Parce que si on dit à Dieu, Seigneur, je te demande de me libérer du tabac, et qu'aussitôt on prend un paquet de cigarettes, la délivrance n'est peut-être pas pour tout de suite. Alors je ne l'ai plus revu, donc peut-être qu'il est marié maintenant, il a peut-être 4-5 enfants, et j'espère qu'il est libéré du tabac, parce qu'il le souhaitait de tout cœur, et c'est sûr que c'est mieux de l'être libéré que d'en être esclave. Mais parfois, vous savez, on a des souhaits, on a des vœux. Lorsque arrive le début de l'année, c'est passé maintenant, c'est trop tard, c'est en janvier seulement qu'on peut le dire, paraît-il, même si j'ai reçu encore des vœux récemment, au mois de février. Et au début de l'année, on se présente les vœux, on exprime non pas ses vœux à soi, mais peut-être plutôt ceux qu'on souhaite aux autres. C'est toujours mieux quand on exprime ses propres vœux. Mais souvent, au début de l'année, souvent, toujours, je crois, on entend un vœu qui est exprimé, vous le devinez tout de suite, surtout, surtout, une bonne santé. Cela, on entend ça partout. J'ai cependant, il est vrai qu'il est appréciable d'avoir une bonne santé physique. Nous pouvons, en tant que croyants, nous souhaiter beaucoup plus que cela. Une bonne santé aussi spirituelle, ce qui est très important. J'ai même connu, et vous en avez connu sans doute, des gens qui avaient une bonne santé spirituelle et qui n'étaient pas forcément en bonne santé physique. Et puis on a connu l'inverse aussi. Des gens qui jouissaient d'une parfaite santé physique, mais qui, du point de vue spirituel, n'étaient pas en parfaite santé. Nous ne savons pas si Salomon a réfléchi longtemps. J'ai personnellement tendance à penser qu'il n'a pas réfléchi très longtemps. Bien sûr, le texte est très concis. Dans la Bible, le texte est souvent très concis. Il résume les choses, plus qu'il n'entre dans le détail. Mais je crois que même si on part de ce principe, on ne peut pas éviter de penser que Salomon avait déjà sa petite idée sur le sujet. Comme peut-être vous avez votre petite idée. Au cas où, Dieu vous poserait la question maintenant. Que désires-tu que je te donne ? Une chose. Pas 36 choses, hein, une chose. Quelle est la chose que tu voudrais le plus que je te donne maintenant ? Ce serait intéressant de savoir hein, ce que chacun d'entre nous dirait, mais on ne va pas le faire. On va garder ça personnel. Personnel, je crois que c'est déjà suffisant d'imaginer ce que nous pourrions répondre si Dieu nous posait la question. Nous avons la réponse de Salomon. Dieu lui dit, une fois que Salomon a répondu, et nous allons voir sa réponse tout de suite, mais je trouve intéressant de voir ce que Dieu dit. Dieu résume en quelque sorte ce qu'un homme normal, un homme standard, ce que la moyenne des gens, aujourd'hui on dirait ici un Français moyen ou un Vietnamien moyen, un citoyen moyen, répondrait. Dieu mentionne trois choses. La richesse. Qui c'est qui aimerait être riche parmi nous ? Levez la main. Juste comme cela, entre nous. Personne ? Oh, c'est... Oui, un homme a eu au moins la franchise de le dire. Vous n'aimeriez pas être plus riche que vous, à moins que vous soyez très riche. Bon, je n'insiste pas. La richesse. Bien des gens rêvent d'être riches. Il suffit de voir les gens qui jouent au loto toutes les semaines et à d'autres jeux encore. Et de temps en temps, il y a un heureux élu, si on peut l'appeler ainsi, qui touche la somme de sa vie, je ne sais plus combien que c'est, 100, 200, 300 millions d'euros, peut-être. Si je me trompe, ça veut dire que je ne suis pas ça de très près. Une somme énorme. Certains disent, on leur dit, mais qu'allez-vous faire maintenant avec cette somme ? Et l'homme ou la femme répond, je vais d'abord arrêter de travailler, je vais prendre des vacances, je vais faire un grand voyage, et puis après, vu ce que j'ai touché, j'aurai encore de quoi voir venir jusqu'à la fin de mes jours. Bon, c'est énorme. C'est énorme. Bien sûr, tout dépend combien vous avez besoin chaque mois. Et quand vous gagnez une grosse somme, vous avez peut-être d'autres besoins que ceux que vous aviez avant. Toujours est-il que Salomon aurait pu, comme tout être humain normal, plus ou moins normal, dire « Seigneur, je voudrais surtout la richesse. » C'est la réponse de certains. Dieu dit « Tu aurais pu me demander la mort de tes ennemis. » Bon, là, c'est un petit peu plus difficile quand on est entre chrétiens de parler de cela. Aucun chrétien normal... On va rester avec des gens normaux aujourd'hui. Aucun chrétien normal ne va souhaiter la mort de ses ennemis. Tout au plus, s'il a des ennemis, parce qu'un chrétien qui se respecte n'a pas d'ennemis en principe, puisque Dieu dit même, si vous avez des ennemis, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez-les, c'est-à-dire souhaitez leur bien. Mais Dieu dit, s'inscrivant dans un contexte qui n'était pas encore le contexte de la spiritualité chrétienne en tant que telle, Dieu dit « Tu aurais pu souhaiter la mort de tes ennemis » puisqu'à l'époque, les rois, même le roi d'Israël, étaient souvent entourés de nations qui voulaient son mal, qui voulaient sa perte, sa mort. Dieu dit « Tu aurais pu souhaiter que je te donne la victoire sur tous tes ennemis. » Et puis, tu aurais pu souhaiter une autre chose que beaucoup d'êtres humains, encore aujourd'hui, souhaiteraient sans doute, c'est-à-dire d'avoir une longue vie. Certainement, si je vous disais, est-ce que vous souhaiteriez vivre en parfaite, je dis bien en parfaite santé, hein, parce que sinon, si je vous avais dit simplement, qui est-ce qui souhaiterait vivre jusqu'à 100 ans ? Vous me diriez, bien, ça dépend. Ça dépend dans quelles conditions. Et là, c'est vrai, des centenaires aujourd'hui qui vivent encore très bien. J'ai lu l'autre jour dans la presse, mais je ne me souviens plus où c'était, je crois que c'était en Australie. Voilà, c'est en Australie. C'est sans doute la plus vieille conductrice du monde. Elle a 97 ans. Et tous les jours, elle prend sa voiture, elle fait encore une cinquantaine de kilomètres pour aller à différents endroits, voir sa famille, voir ses amis, faire ses courses. Elle a 97 ans et elle dit qu'elle conduit depuis l'âge, et bien depuis l'âge légal. Elle dit « J'ai appris à conduire dans la ferme de mes parents, j'étais jeune, j'avais pas l'âge pour conduire, mais c'est dans leur ferme, donc à l'intérieur, hein. Il n'y avait pas trop de risques, peut-être pour les animaux de la ferme, je ne sais pas, mais elle avait appris à conduire dans la ferme, et puis dès qu'elle a eu l'âge, elle a passé son permis. Et à 97 ans, elle conduisait encore très bien. Alors, quand on est en santé comme ça, en bonne santé, tout va bien. Dieu dit, tu aurais pu demander une longue vie. Pour la petite histoire, il est probable que même s'il n'a pas demandé une longue vie, Salomon n'a pas vécu une longue vie. Vous savez que pour cette option-là, Dieu avait placé une petite condition. Il avait dit, si tu marches selon mes voies, si tu respectes mes commandements, si tu marches sur le droit chemin selon ma loi, je te donnerai en plus une longue vie. On estime généralement, puisque Salomon lui-même dit qu'il n'était qu'un petit jeune homme quand il est monté sur le trône, comme la Bible dit un peu plus loin qu'il a régné 40 ans, cela veut dire qu'il n'a pas vécu encore moins longtemps que son père finalement, et que probablement vers l'âge de 55 ans ou 60 ans, il est mort. Il n'est pas mort brutalement, il n'est pas mort de maladie, on ne sait pas de quoi Salomon est mort, mais on sait qu'il est mort à un âge relativement jeune. Alors, revenons pour terminer sur ce que Salomon a demandé. Salomon a dit: « Seigneur, je suis un jeune sans expérience. Je suis un roi sans expérience. Seigneur, la chose que je voudrais le plus au monde, je le paraphrase, c'est que tu me donnes un cœur attentif. Un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important ?» En réalité, ce que Salomon dit, c'est, en disant « je voudrais avoir un cœur attentif », c'est littéralement traduit « un cœur qui écoute ». Un cœur, bien sûr, qui écoute Dieu. Un cœur qui écoute Dieu pour comprendre ce qui est bien, ce qui est mal, dans la gestion du peuple, dans la direction du peuple. C'est une demande extrêmement sage, à tel point que souvent, on résume cela en disant « Salomon a demandé la sagesse ». D'une certaine manière, c'est vrai. Salomon a demandé à Dieu la capacité d'être sage pour bien discerner les choses, pour bien comprendre son peuple et pour savoir le diriger dans le bien en évitant le mal. Comme vous le savez, cette demande, comme cela est écrit un peu plus loin, a plu à Dieu. Au verset 10, il nous est dit cela, et au verset 11, Dieu dit « Puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse et que tu ne demandes pas pour toi la mort de tes ennemis, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent et je te donnerai également la richesse de telle sorte qu'il n'y aura pendant ta vie aucun roi semblable à toi. » Dieu ne lui a pas proposé la mort de ses ennemis. Il lui a dit « Je te donnerai la sagesse et je te donnerai la richesse. Et si tu marches dans mes voies, tu vivras longtemps. » Alors je termine en disant ceci. Dieu nous aime, comme il aime Salomon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dieu nous aime et Dieu, d'une certaine manière, nous a déjà posé la même question. Ou plutôt, il nous a donné sa réponse. Puisque nous avons dans la parole de Dieu, dans la Bible, ces versets, je vais vous en citer trois, qui vont dans le même sens. Par exemple, David dit dans le psaume 27, « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » En d'autres termes, marche toujours en respectant la parole de Dieu, fais de Dieu ton trésor, et Dieu te donnera ce que ton cœur désire. C'est à peu près ce que Dieu avait dit à Salomon. Dans Jean chapitre 14, verset 13, nous lisons que Jésus a dit à ses disciples, donc à ceux qui croient en lui, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Dieu ne dit pas, Jésus ne dit pas, si vous demandez telle ou telle chose. Il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et un peu plus loin, nous lisons dans 1 Jean chapitre 3, l'apôtre Jean dit ceci aux chrétiens de l'époque, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, donc si nous marchons dans les voies de Dieu, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de Dieu parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Ce qui revient exactement aux paroles que Dieu a dites à Salomon. « quand Dieu lui a dit « Et si tu fais ce que je te demande, si tu obéis à mes commandements, si tu observes mes commandements, je te donnerai aussi une longue vie. » Toutes ces promesses de Dieu ne sont pas des portes ouvertes à la satisfaction de nos désirs les plus personnels. Mais cela nous donne un cadre dans lequel nous pouvons avoir des désirs, des requêtes, des rêves même. Nous pouvons rêver, et si nous marchons dans les voies de Dieu, il est évident que nous n'aurons que des rêves qui plairont à Dieu. Nous aurons des rêves qui seront marqués par la parole de Dieu. Je dis souvent que à ceux qui me disent « la prière est la chose la plus importante de la vie chrétienne », et je réponds toujours « non ». Ce qui suscite généralement une espèce de surprise. Je dis « non ». Il y a quelque chose qui est plus important que la prière. Parce que j'entends partout dire, et j'en parlais encore ce matin dans une autre église, la chose essentielle dans la vie chrétienne, c'est de prier. Alors je dis non, pourquoi? Parce que, j'explique ceci, quand nous prions, c'est nous qui parlons à Dieu. Y a-t-il quelque chose de plus important que cela? Et généralement, on me répond, ou j'aide les gens à répondre, oui, il y a quelque chose de plus important, c'est quand Dieu nous parle. Si vous allez un jour ou l'autre chez un personnage important, beaucoup plus important que vous, est-ce que si vous êtes invité à rencontrer ce personnage, est-ce que vous allez arriver et dès que vous arrivez, vous allez vous mettre à parler? Ça dépend peut-être du tempérament, je ne sais pas, mais je vous conseille de ne pas parler tout de suite. Je vous conseille de voir les choses venir. Je vous conseille d'écouter l'homme important, surtout si c'est lui qui vous a invité, et d'écouter ce qu'il a à dire. Et puis quand il vous donnera la parole, vous pourrez la prendre et parler. Je crois que dans la vie chrétienne, il en est de même. Lorsque nous lisons la Bible, la parole de Dieu, nous écoutons Dieu qui nous parle. Et il est plus important d'écouter Dieu qui nous parle que de parler nous-mêmes à lui, que de lui parler. D'autant plus que si nous attachons beaucoup plus d'importance encore à sa parole et à ce qu'il dit dans sa parole, nos prières seront alimentées, entretenues, voire même inspirées par ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est dans ce sens, je crois, que Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, mon Père vous le donnera ». Si nous nous nourrissons de sa parole, si nous nous plaçons dans ce contexte-là, sous l'autorité de sa parole, nos prières ne pourront être qu'inspirées par son Esprit Saint. Que Dieu vous bénisse.